Oui, ça. Alors, je vais faire cette présentation et c'est Derek qui maintenant n'est pas ici, mais que vous avez rencontré ce matin, qui a fait cette préparation. Je voulais le remercier. Et ce que peut-être vous ne savez pas, c'est que Derek s'est marié l'année dernière et ça, c'est sa femme. Ce n'est pas son doigt moyen, c'est le doigt où il y a l'alliance. Mais bon, ils ont eu un cadeau au jour de son mariage, de venir à Paris pour un long week-end, et ils ont choisi ce week-end pour être ici, donc maintenant ils sont en train de fêter ça. Et il m'a demandé donc de faire sa présentation pour lui. Et la présentation, c'est un peu la suivi de ce qu'il a raconté, c'est surtout sur le Dionysus Study, mais maintenant la prise en charge néonatale, parce que ça, lui, il a parlé de la prise en charge avant la naissance, et je vais parler de exsanguino-transfusion, IGIV, des transfusions de sang, et surtout ce que demandait Jean-Marie, à quel âge on doit faire naître ces bébés, c'est une question très importante. Alors, dans cette étude de Dionysus, on avait plus de 2000 grossesses, et à la fin, on a vu plus ou moins 2000 nouveau-nés. La moitié avait eu des traitements avant la naissance avec des transfusions et l'autre moitié sans des transfusions. Quand on a regardé comment ils ont été traités, bien, presque 90%, plus de 90% ont naturellement eu de la photothérapie intensive et 24% ont eu des exsanguino-transfusions. Ça, c'est très normal. Thérapie intensive de photothérapie, c'est la meilleure chose à faire. Il y a beaucoup de discussions sur la exsanguino-transfusion. Il faut le faire si la photothérapie ne marche pas, mais c'est une procédure compliquée et dangereuse, surtout si on ne la fait pas souvent. Donc, c'est quelque chose que c'est nécessaire, mais il est mieux de faire tout ce qu'on peut pour ne pas devoir le faire. Et ce qu'on a vu, c'est que quand on regarde les deux populations, les deux cohortes, les enfants, les 1000 enfants qui ont été traités avec les transfusions en utero et ceux qui n'ont pas été traités, ils ont plus ou moins le même pourcentage de exsanguino-transfusion, plus ou moins 22-23%. Mais il y a une grande variance il y a des centres où ils n'ont jamais besoin d'exsanguino et des centres qui le font jusqu'à 60-90% des enfants ont besoin d'exsanguino. Et ça, c'est étrange, non? Parce que c'est les mêmes enfants. Donc, apparemment, on n'est pas d'accord ou on ne fait pas la même chose ou peut-être on n'use pas les mêmes protocoles. Je vais parler un peu plus tard à cause sur cela. J'ai mis des flèches vertes sur le centre de Paris parce que la question était de comparer le traitement en France et dans le monde, mais je ne sais pas dans la France, je sais seulement de Paris. Et Paris est un peu moins de la moyenne de 22%, donc ça c'est très bien. Continuez comme ça. Maintenant, les IGIV. IGIV, c'est aussi controversiel. On a entendu maintenant que c'est aussi difficile d'avoir les IGIV. On donne ça par kilo. Et naturellement, la grossesse, les personnes de 70 kilos, c'est beaucoup plus de IGIV que pour donner ça à des bébés de 3 kilos. Mais il n'y a pas de bonne évidence sur l'effet de IGV. Et on donne le IGV dans la néonatologie chez ces enfants pour essayer d'éviter d'avoir besoin d'une exsanguino-transfusion. Mais si tu regardes les Cochrane Review, on a eu 3 études bien faites sur ça et ça n'a pas de bénéfice. Mais de toute façon, il y a beaucoup de gens qui continue à l'utiliser. Nous, on a arrêté d'user ça en Hollande pour cette indication. Et maintenant, dans le monde, il y a plus ou moins 24% dans le monde. Dans le Dionysus Study, 24% qui usent ce IVIG. Et exactement comme dans les exsanguinaux, une énorme variance. Il y a des centres qui ne l'utilisent jamais, comme notre centre, on est la boule grise. Et il y a des centres qui le donnent à 90, même 100% des enfants reçoivent ces IGIV. Et de nouveau, Paris, très bien, en dessous de la moyenne. Bon, ça c'est encore quelque chose que les prochaines années, peut-être il y aura des études, je ne crois pas, c'est difficile, mais ce qu'on a vu, c'est que grâce à cette étude, le Dionysus, on a eu beaucoup d'enfants avec les IVIG et on a aussi demandé, est-ce que ces enfants qui ont reçu le IVIG, est-ce qu'ils ont eu des complications, par exemple, entérocolite, nécrotinec, et parce que c'est ça peut-être un danger. Personne de ces enfants ont eu ça. Donc il faut, et ça c'est donc un très grand groupe, donc il ne faut pas avoir peur de ça, mais je pense qu'il faut seulement donner une médecine si elle aide. Et si elle n'aide pas, peut-être il ne faudrait pas la donner. Ce qu'on a vu aussi, c'est qu'il y a une grande variance aussi de combien de IVIG donnent les personnes. Certaines donnent moins de 0,5 grammes par kilo et d'autres donnent plus de 1. Ensuite, l'autre question qu'on a eue dans le Dionysus, c'est combien de ces enfants avec le HDFN, le rhésus, avaient besoin de transfusion de sang après la naissance. Ils ont besoin avant la naissance parce qu'ils ont l'anémie fœtale, mais cette anémie continue souvent aussi après la naissance. Donc il faut les suivre pendant 3 mois. Et l'anémie est due naturellement pour une part au fait qu'ils ont encore des anticorps de la maman dans leur circulation qui vont diminuer mais qui continuent à donner le hémolyse. Ça, c'est un facteur. Mais l'autre facteur, c'est que leur production de sang, de leur sang, est très basse. Et on voit ça dans ces enfants qui ont eu beaucoup de transfusions en utéro. Et ça, c'est dû au fait que en donnant une transfusion, la production s'arrête. Donc les réticulocytes dans ces enfants est très basse. Donc il y a deux causes de l'anémie dans ces enfants et qui ont donc besoin de transfusion après la naissance. Et plus ou moins 2/3 de ces enfants avaient besoin de transfusion après la naissance. Et aussi, exactement comme dans les deux autres graphiques, on voit beaucoup de différences entre les centres. Nous, dans notre centre, la grosse boule grise, c'est plus ou moins la moitié. Et d'autres avaient presque 100% des enfants qui avaient des transfusions nécessaires. On voyait aussi une grande différence de hémoglobine avant la transfusion. Et ça, c'est probablement parce qu'on use tous des protocoles différents pour quand donner une transfusion à ces enfants. Très peu de centres donnent de l'EPO à ces enfants. Et on a fait une étude il y a quelques ans avec une étude randomisée et on a vu que l'EPO aide à ces enfants, surtout si les enfants qui ont très peu de réticulocytes, donc qui n'ont pas de production. Si tu donnes l'EPO, tu diminues par 50% la nécessité de donner de transfusion de sang pendant les premiers 3 mois. Le problème, c'est que cette EPO qu'on a donnée dans cette étude, c'est darbepoïétine, c'est une fois par semaine, mais donc il faut donner dans le bébé une fois par semaine cette injection subcutaneous sous la peau. Donc ça fait, bon, c'est la question, c'est qu'est-ce qui est mieux faire pendant 5, 6, 7 semaines donner de EPO, donc 5, 6, 7 fois une injection, ou bien 2 fois par 3 mois une transfusion de sang. Ça, c'est une question différente. Et maintenant, la question de Jean-Marie. À quel âge faut-il faire naître ses enfants? Eh bien, on a eu toujours beaucoup de discussions entre les obstétriciens et les néonatologues. Les obstétriciens disaient toujours chez nous, il faut les faire naître à 35, 36 semaines, parce que dans le dernier trimestre, dans la dernière semaine, il y a beaucoup de passages d'anticorps. Et donc, il y aura, ces enfants auront plus d'hémolyse et ils auront besoin plus d'exsanguinaux. Ça, c'était la théorie. Et nous, on disait, peut-être il faut attendre plus et attendre après 37 semaines parce que les enfants vont être plus mûrs, non, matures, matures. Et le foie va être plus mature et ils auront moins besoin d'exsanguinaux parce que ils auront plus, la bilirubine va être plus basse. Et on a surtout pensé à ça après les discussions avec Ken Moïse, qu'on a entendu après, avant, qui racontait qu'il faisait naître ses enfants à 38-39 semaines et n'avait jamais besoin d'exsanguinaux. Donc on a regardé dans le Dionysus si c'était possible d'analyser ça. Et pour faire ça, on a essayé de trouver un groupe assez homogène. Donc c'était un groupe qui n'avait pas reçu avant de IGIV, pas de IGIV avant la naissance et après la naissance, un groupe sans heat drops, comme ça qu'ils n'étaient pas trop malades. Et ce qu'on a vu, c'est que le pourcentage d'exsanguinaux était plus bas le plus que tu allais avant avec la grossesse. Donc, si tu attends plus, si tu fais naître les bébés après 37 semaines, tu auras besoin de moins d'exsanguinaux, pour diverses raisons probablement. Un, c'est que peut-être le foie va être plus mature, et l'autre, c'est que les curves où on met la bilirubine, les plots, elles changent par semaine. Le taux de bilirubine qu'on accepte dans un bébé de 37-38 semaines est plus haut que dans un bébé de 35-36 semaines. Donc, on a pour l'exsanguinaux, on pense que c'est mieux d'abaisser le pourcentage en faisant si que les bébés soient nés après 37 semaines. Évidemment, il y a d'autres avantages à faire naître ces bébés plus tard. Plus les enfants sont prématures, et plus ils auront des complications de la prématurité, et les complications comme l'infection ou des problèmes cérébraux ou des problèmes des intestins. Donc, il y a aussi des avantages pour ça. Et on a vu que en augmentant par chaque semaine de la naissance, on aura 43% moins de complications néonatales. Donc plus les enfants sont âgés, mieux c'est. C'est pas du rocket science, c'est très logique. Maintenant, la question, c'est est-ce que c'est aussi un effet non seulement dans la période néonatale, mais aussi dans le long terme? Alors, malheureusement, dans ce Dionysus study, on n'a pas la possibilité de regarder au long terme parce que presque personne fait le long terme de ses enfants. Et donc, on a regardé seulement dans notre population. Nous, on regarde, on fait retourner ses enfants à 2 ans chez nous et pas tous sont rentrés, plus ou moins 60%. Et donc, on avait 365 enfants qu'on a eu long-term étude. Et on regarde toujours avec des tests standardisés et on regarde le IQ, le quotient intellectuel, mais aussi toutes les autres choses. Et ce qu'on a vu, c'est que le quotient intellectuel dans ces enfants, et c'est tous des enfants qui ont eu des traitements anténatales, est en moyenne. Et il y avait 14% qui ont eu moins de 85, donc c'est des enfants qui auront des problèmes, et 2,5% qui auront beaucoup de problèmes, parce que le moins de 70, c'est très très bas pour un enfant. On a regardé à quels sont ces enfants qui ont ces problèmes, il n'y avait pas vraiment des risk factors sauf l'éducation maternelle. Ça, c'est quelque chose qu'on sait dans la néonatologie, que l'éducation maternelle, pas vraiment paternelle, c'est surtout la maman qui a beaucoup d'effets pour le bébé, le père, pas beaucoup. L'éducation maternelle est très importante pour le quotient d'intelligence. Quand on a regardé à la handicap, c'est un handicap, c'est une grande définition, composite outcome de spasticité, de sourdité, etc. On a vu qu'il y avait plusieurs facteurs de risque, dont le e-drops, l'anasarque, mais aussi les semaines de naissance quand ils sont plus jeunes, ils auront plus de risques d'avoir de handicap. Et comme vous voyez sur ce graphique, chaque augmentation de une semaine aura 30% moins de handicap. Et dans ce graphique, peut-être plus facile à voir, les enfants qui sont nés après 37 semaines ont 1,6% de handicap, et les enfants nés avant 35 semaines, 10,7%. Naturellement, on ne sait pas, parce que ce n'était pas une étude randomisée, on ne sait pas si les enfants sont nés trop tôt parce que le gynécologue voulait les faire naître trop tôt parce que c'était mieux pour les enfants ou parce que le bébé avait un problème. Donc il faut faire attention avec l'interprétation. Ça, c'est un graphique qu'on avait fait dans une étude précédente, le Lotus Study, qu'on avait fait voir que les risques de handicap dans la population en Hollande, c'est 2 à 3%. Et les enfants qui ont eu le rhésus et des traitements avec les transfusions dans le utero, ceux qui n'avaient pas de e-drops avaient eu exactement le même risque que la population normale. Donc ces enfants, maintenant, on ne les suit plus parce qu'ils ont exactement le même risque. Mais les enfants qui avaient le e-drops, là, le risque était de 13%. Donc ces enfants, on continue à les voir. Et ce qu'on essaye, c'est d'avoir le moins en moins possible de e-drops. Et ça, c'est possible. Ça s'est très beaucoup abaissé en Hollande. Maintenant, c'est moins de 5% des enfants qui ont e-drops avec cette maladie. Donc, pour conclure, on a vu dans ce Dionysus study qu'il y a des énormes variances en pourcentage de exsanguinaux, de IgIV, de transfusion de sang, mais qu'on pense, il faut faire attention, mais on pense qu'on pourrait abaisser le risque, par exemple, d'exsanguinaux, mais aussi le risque d'avoir des handicaps en faisant si que les enfants soient nés après 37 semaines. Merci beaucoup pour l'attention.